Place Tahrir, hiver 2011, révolution égyptienne. En première ligne, face à la police organisée, les ultras des clubs du Caire.
Mi-avril, 9 footballeurs algériens, dont Rachid Metloufi, quittent clandestinement la France, renonçant à sa carrière, à la gloire, à l'argent. Il a répondu à l'appel du FLN.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Terrain Miné, le podcast qui retrace l'histoire du football dans les différents conflits mondiaux. Je suis Léo Roussel et aujourd'hui je vous propose un nouveau saut dans le passé, le temps d'un nouvel épisode.
Il voit rien. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Miné. Pour ce deuxième podcast, je vous propose de nous rendre au début du XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons parler de football pendant la Première Guerre mondiale. Alors des histoires de ballons ronds pendant la guerre 14-18, il y en a, et pas qu'une. Mais saviez-vous qu'en France, c'est lors de ce conflit majeur que les femmes ont commencé à pratiquer le football? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Laurence Prudhomme-Poncet, professeure de PS à Lyon, historienne et autrice du livre « L'histoire du football féminin au XXe siècle ». Bonjour Laurence, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais bien, je vous remercie.
Laurence, vous êtes une passionnée, vous avez vous-même pratiqué le football et vous avez fait en 2002 une thèse sur l'histoire du football féminin en France dans le cadre de vos études en STAPS. Alors souvent, quand on évoque le développement du football féminin en France, on évoque plutôt les années 70, mais en réalité, quand voit-on apparaître la pratique ?
Alors, le football féminin est apparu en France en 1917 dans le cadre d'une société féminine de sport qui s'appelle Femina Sport, qui a été créée plutôt en 1912 pour le développement de la pratique physique pour les femmes, et notamment les femmes de conditions ouvrières ou employées.
Au niveau du sport, dans quel contexte apparaît cette pratique ?
Avant la guerre, déjà, la société commence à développer la pratique de la gymnastique, qui est plutôt l'activité développée pour les femmes alors. Et puis commence aussi la natation. En 1915 débute la pratique des sports athlétiques, les courses, les sauts, les lancers. Et puis en 1917 a lieu au cours de l'été les premiers championnats d'athlétisme et en septembre le premier match de football féminin.
On a un contexte qui est globalement plutôt favorable au développement du sport pour les femmes à l'époque, mais pourtant le football n'est pas encore un sport très populaire.
Alors, le football est bien implanté en France, mais c'est vrai qu'il jouit pas encore d'un sport populaire, il n'est pas encore sport national. À ce moment-là, c'est plutôt une pratique omnisport qui est développée, mais la guerre va populariser le football, qui va gagner en visibilité, notamment par des matchs à l'arrière, et puis les matchs, des matchs de tranchées, et aussi toute une volonté d'envoyer des ballons au front, d'aider les soldats qui sont au front. C'est aussi à la sortie de la guerre que la Fédération de football, l'association, va être créée en 1919. Donc c'est plutôt un contexte favorable au niveau du football que ce contexte de guerre. Pour ce qui est des femmes, la pratique physique et l'idée de l'importance de la pratique physique pour les femmes dans une perspective nataliste progresse dès avant la guerre et puis continue pendant la guerre. C'est vrai que c'est un moment où les relations entre hommes et femmes sont un peu bousculées. L'emploi féminin progresse durant la guerre dans des métiers qui sont plutôt des métiers masculins jusque-là, avec l'emblème peut-être qui est la munitionnette qu'on voit fabriquer des armes dans les usines. La guerre donne une plus grande visibilité aux femmes, donc c'est plutôt un contexte favorable, effectivement.
Ces femmes dont vous parlez, elles accèdent alors à des rôles qui ne leur étaient pas ouverts. Elles gèrent de nombreuses choses, au final.
C'est vrai que c'est une époque compliquée, et pour les hommes au front, et pour les femmes, effectivement, à l'arrière, qui doivent faire fonctionner tous les endroits désertés par les hommes, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui deviennent infirmières, elles sont aussi dans les administrations. Enfin, c'est vrai qu'elles gèrent la famille, les hommes étant partis. Les paysannes, les agricultrices s'occupent effectivement des fermes. Les femmes, en fait, tiennent les maisons, les usines, et c'est vrai qu'elles ont un rôle primordial qu'elles ne jouaient pas avant.
Ces femmes travaillent notamment dans les usines, à fabriquer des munitions pour les hommes sur le front. Vous avez employé tout à l'heure le terme munitionnette. Ce sont ces ouvrières qui vont être les pionnières du foot pendant la Première Guerre mondiale, en Angleterre notamment.
Alors, les munitionnettes, c'est vrai que c'est une image pour montrer le rôle des femmes dans des métiers traditionnellement masculins. Et c'est effectivement des femmes qui vont être employées dans des usines pour fabriquer des munitions de guerre en nombre pendant la Première Guerre mondiale. Et effectivement, ça va jouer un rôle fondamental dans le développement du football féminin en Angleterre. En France, effectivement, les femmes fabriquent dans ces usines des munitions pour la guerre. Elles sont force de fabrique, mais ça n'aura pas un lien aussi étroit avec le développement du sport féminin et du football féminin en particulier comme en Angleterre.
Et est-ce qu'on a écho, avant la Première Guerre mondiale, de parties de football disputées par les femmes ?
Alors, en Angleterre, au cours des années 1890, on a quelques exemples de matchs de football féminin. Je pense par exemple au match à Londres en 1895. Mais c'est vrai que le football va se développer, comme en France, essentiellement à partir de 1900, enfin pas dans la guerre, à partir de 1916. En France, il n'y a pas vraiment d'autres mentions de pratiques de football avant dans la presse. Alors peut-être qu'il y a eu effectivement des essais ici ou là, mais les premiers matchs qui apparaissent dans la presse, les premiers essais en tout cas, sont en France, à Paris, en septembre 1917.
Alors en France, on l'a dit, c'est la société Femina Sport qui est à l'origine des premiers matchs organisés. Comment elle en vient en fait à organiser ces rencontres de foot ?
Alors, Femina Sport est née de la scission d'une société féminine de gymnastique parisienne qui s'appelle En Avant en 1911. Et donc, plusieurs femmes de cette société et un des professeurs de gymnastique de cette société, Pierre Paissé, vont fonder donc Femina Sport avec pour but de développer la pratique des activités physiques pour la masse des travailleuses, notamment les ouvrières et les employés. Bien qu'il y ait aussi quelques étudiantes qui se joignent à cette section, effectivement, c'est dans un but de propager la pratique physique pour les femmes, à une époque où ce sont essentiellement la gymnastique qui est une pratique hygiénique et favorable pour les femmes dans une perspective nataliste, avec dans l'idée de faire des femmes robustes et donc des enfants robustes et sains pour la patrie, à un moment où effectivement la démographie diminue. Et progressivement, les femmes donc vont pratiquer différents types de gymnastique, se donner en spectacle pour promouvoir la gymnastique des femmes dans différents gymnases parisiens. Puis vont se mettre à la pratique de la natation, progressivement à partir de 1915 aux pratiques athlétiques, puis au football en 1917, au hockey ensuite, au basketball et après-guerre même à la barrette qui est une sorte de rugby.
Et quelles sont les figures fortes de cette société ?
Tout d'abord Alice Mia qui a rejoint juste avant le début du conflit Femina Sport, qui devient président de Femina Sport en 1918, puis dès l'année suivante, qui deviendra présidente de la Fédération féminine sportive française et qui va œuvrer ardemment pour le développement du sport féminin, non seulement en France, mais aussi au niveau international. Et le dynamisme est aussi lié au directeur sportif et à son dévouement, Pierre Paissé, qui est un professeur de gymnastique qui enseigne dans différents lycées parisiens et qui va aussi beaucoup œuvrer pour le développement de Femina Sport. Il en sera directeur jusqu'en 1938 et qui va aider aussi au développement du sport féminin.
En 1917, il y a encore peu d'équipes de football. Alors, qui oppose la première rencontre de Femina Sport ?
Alors, en 1917, le premier match a lieu à Paris le 30 septembre et oppose deux équipes de Femina Sport. Donc, en fait, ça se joue au sein de cette société féminine parisienne sur quelques rencontres les dimanches. Et puis, très vite, en fait, grâce aux relations et au travail de Pierre Paissé, elles vont se mettre à rencontrer des jeunes équipes masculines, scolaires, de différents grands établissements parisiens. Puis après, de grands clubs sportifs parisiens, je pense au Stade français par exemple, elle rencontre effectivement les équipes jeunes. Et donc, cet hiver 1917-1918, elle joue effectivement contre des jeunes footballeurs parisiens, puisque finalement, elles n'ont pas vraiment d'autres adversaires à rencontrer à ce moment-là, puisqu'elles sont les seules à pratiquer cette activité.
Quel accueil reçoit alors la pratique du football par les femmes ?
Alors, au début de la pratique du football féminin, c'est vrai que ça reste assez confidentiel. La presse évoque, par exemple, juste en quelques lignes, les matchs qui peuvent être réalisés. Donc, on n'a pas tellement d'informations sur ces matchs-là. Ça semble être plutôt une curiosité et vraisemblablement plutôt un point positif dans la mesure où ce serait temporaire, un petit peu comme les femmes dans les métiers masculins. Finalement, elles se mettent à pratiquer des activités plutôt masculines, mais c'est plutôt lié à la guerre et ce serait perçu d'une manière plutôt positive dans la mesure où ça serait amené à s'éteindre assez rapidement. On ne ressent pas d'hostilité par rapport... Il n'y a pas de critique émise dans la presse, donc on a l'impression que c'est plutôt une chose positive que les femmes s'adonnent à la pratique physique.
Pendant que les hommes sont au front, on a donc un accueil plutôt positif du football. Comment ça évolue à partir de 1918 et la fin de la guerre ?
En France, à la sortie de la guerre, le football féminin commence à se développer, notamment à Paris et surtout dans la banlieue parisienne, avec des équipes qui se créent à plusieurs endroits. En 1920, vont commencer aussi à se développer le football féminin grâce à des tournées de propagande à Reims, à Quevilly, à Toulouse ensuite. Donc une volonté de développer cette pratique qui, dans un premier temps, reçoit des critiques, mais qui ne sont pas virulentes, mais assez vite, effectivement, en 1920 et 1921, la critique à l'égard du sport féminin et du football en particulier va se développer. Dès 1919, cependant, la Fédération française de football association, qui est en pleine création, va très vite refuser d'intégrer les femmes au sein de la fédération.
Et quels sont les motifs avancés par la fédération pour cette interdiction ?
De la part de la fédération, c'est vrai que j'ai pas trouvé de document explicitant les raisons du refus d'intégrer les femmes en leur sein. Après, l'argumentaire qui se développe, c'est essentiellement la peur de la masculinisation des femmes, la peur d'abîmer leur corps supposé fragile, donc de déformer les corps, mais allant même jusqu'à les rendre, le football pourrait les rendre stériles, donc avec cette peur effectivement que la procréation, rôle suprême de la femme, puisse être dérangée par la pratique de cette activité.
Alors, je me pose une question. Comment on peut expliquer cette évolution, alors qu'on a dans un premier temps la volonté de développer la pratique du sport ? Parce que ce qui est vrai pour le foot, les interdictions au retour des hommes, c'est vrai aussi pour l'athlétisme qui verra sa pratique interdite plus tard.
Je pense que c'est lié au contexte qui est dans un premier temps plutôt favorable aux femmes, une certaine liberté de mouvement acquise pendant la guerre, et puis une pratique qui reste quand même assez confidentielle sur quelques terrains sportifs, et qui, quand la presse va relater les rencontres internationales contre l'Angleterre, va prendre plus d'ampleur et va accélérer les critiques.
Est-ce qu'on peut dire qu'au sortir de la guerre, les hommes se sont en fait réappropriés le terrain sportif ?
Oui, c'est vrai qu'assez vite, les hommes regagnent les terrains et redeviennent les vedettes. Et le football ayant gagné en visibilité au cours de la guerre, c'est vrai qu'il va se développer au sortir de la guerre. En fait, très vite, les idées plus progressistes et plus favorables aux femmes nées de la guerre et de leur rôle au sein de la guerre, très vite, les idées traditionnelles vont reprendre le pas assez vite, en fait, et pour les pratiques sportives et pour la place de la femme dans la société en général.
On aura le temps tout de même de voir un championnat se développer ?
Très vite, le premier championnat est qualifié de championnat national, alors qu'il n'y a que deux équipes en lice et que ce sont deux équipes parisiennes. Mais effectivement, il y aura jusqu'à une vingtaine d'équipes à l'apogée du championnat en 1923, et puis très vite ça va décliner pour disparaître en 1933 d'abord au niveau de la fédération féminine. Quelques jeunes femmes vont continuer à pratiquer à Paris essentiellement jusqu'en 1937, et puis en 1937 ça semble disparaître totalement.
Et c'est pendant une autre guerre qu'on va voir la pratique disparaître complètement et être interdite.
Alors effectivement, en 1941, alors que le commissariat général à l'éducation physique et au sport était plutôt dans une dynamique favorable à la pratique sportive et à la pratique sportive féminine, effectivement, elle va prendre à l'encontre du football féminin une interdiction de la pratique de cette activité qui est jugée comme quelques années plus tôt, trop rude, trop virile.
Il y a des joueuses qui ont le temps quand même de se faire un nom durant cette courte période de la pratique du football par les femmes ?
Durant les années 20 et les premières années après-guerre où le football féminin commençait à se développer, c'est vrai qu'il y a des joueuses dont on parle beaucoup parce qu'elles sont à la fois athlètes et joueuses de football. Je pense par exemple à Madeleine Braquemont ou aux Sœurs Brûlé qui font parler d'elles. Mais c'est surtout Violette Maurice qui va faire parler d'elle, notamment par un procès qui se tiendra à l'encontre de la Fédération féminine et sportive pour port du costume masculin. Ça va effectivement être quelque chose d'important et on est effectivement contre ce port du costume masculin qui est le pantalon et souvent la veste d'homme, mais c'est aussi plus les mœurs qui sont associées puisque le lesbianisme fait partie aussi des critiques, ses attitudes viriles, masculines, elle fume, elle conduit des voitures, des motos, elle se fait enlever un sein pour pratiquer le tir à l'arc plus facilement, donc effectivement beaucoup de critiques se cristallisent autour de cette figure d'une femme qui s'émancipe, qui fait valoir ses droits et qui est la cible de critiques.
Pour terminer cet entretien, quel constat vous avez fait au cours de vos recherches de l'héritage laissé par cette période dans la construction de la pratique du football par les femmes dans l'histoire ?
Alors, quel héritage a laissé cette période ? Oui, vaste question. Moi, je vois surtout des similitudes dans le regard qu'on peut porter sur la pratique du football par les femmes. C'est vrai qu'on, même si elle se fait mise, la peur de la masculinisation des femmes reste d'actualité. Et je me disais, mais c'est compliqué, c'est encore compliqué pour nous aujourd'hui de pratiquer le football. Comment des femmes ont pu, dans les années 20, jouer au foot ? Enfin, ça me paraissait complètement dingue. Et du coup, j'ai eu envie de creuser cela. Et c'est vrai que ça m'a passionnée, notamment de découvrir comment était né le football féminin en France.
Eh bien, merci Laurence d'avoir répondu à mes questions et de nous en avoir appris davantage sur l'histoire du football féminin en France.
Je vous en prie, c'était avec plaisir.
Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Terrain Miné. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez aller plus loin dans vos recherches, vous pouvez consulter les liens ajoutés à la description de ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Terrain Miné. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et à suivre Terrain Miné sur les différents réseaux sociaux. À bientôt !